Que le nom du Seigneur soit béni. Quelle grâce d'être à l'abri. Quelle grâce d'être à l'abri. Vous êtes conscient de la bénédiction que c'est d'avoir un temple protégé? Eh oui. Est-ce que vous croyez que tous les chrétiens du monde ont des églises? Non, il y en a qui n'ont pas d'église. Voilà. Voilà, nous allons ouvrir le Saint-Livre dans Ésaïe 48.
Merci.
Ésaïe 48. Nous allons voir ce soir l'importance de la plénitude du Saint-Esprit. C'est quoi exactement? Je crois qu'il faudra peut-être plusieurs réunions pour l'expliquer. En tous les cas, une chose est sûre, Dieu la veut, cette plénitude. Même s'il y a des luttes, des combats, des difficultés, une chose est sûre, ils seront d'autant plus facilités par cette pensée que nous développerons, la plénitude du Saint-Esprit. Il y a un prix à payer, c'est vrai, on va le voir, parce qu'il faut être déterminé. Ésaïe 48, verset 17. Voilà, je pense qu'on fera plusieurs études. Vous pouvez même peut-être m'aider à préparer cette prédication. Peut-être qu'il n'y a que des prédicateurs dans l'église et prédicatrices. Ésaïe 48, verset 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. Amen. On voit le soupir du Seigneur qui exprime « Oh, si tu étais attentif ». Je crois que nous devons être honnêtes. Bien souvent, nous avons même apprécié certains enseignements, certaines promesses, parce que bon, comment ne pas apprécier les promesses? Mais nous n'avons peut-être pas été assez attentifs à ce que Dieu voulait. Eh bien, que ce soir, dans sa bonté, Dieu nous amène peut-être à faire de la précision, dire « Tiens, il y a des choses que je n'ai pas saisies ». On va partir juste dans le comportement d'un homme, dans Deux Rois. On voit un homme qui a voulu une double onction. C'est le prophète Élisée. Deux Rois, chapitre 2, il a pour pasteur principal le prophète Élie et il veut le suivre jusqu'au bout, il est déterminé. Est-ce que vous êtes déterminé à suivre jusqu'au bout et le plus près possible le Seigneur Jésus? C'est une question qu'on peut poser, parce que vous savez, on le voit dans la Bible, les gens qui suivaient de loin, les gens qui étaient loin de Dieu, ça veut en dire long sur leur désir. Et là, nous avons un homme, il y en avait plein d'autres, ailleurs on en voit 50 qui étaient dans la même catégorie que lui, mais qui se tenaient éloignés. Mais lui, c'est Deux Rois, chapitre 2, verset 1er, lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Regardez bien comment Dieu peut nous éprouver avec des gens spirituels. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Vous avez vu cette... Et trois fois, Élie va dire à Élisée, « Reste là. » Et je crois que Dieu peut nous éprouver. Des fois, on dit, on met le diable à toutes les sauces. C'est vrai, souvent on dit le diable, bon, c'est, je ne sais pas si c'est intelligent, parce que ça justifie parfois notre désobéissance. Il n'empêche que de toute façon, Dieu peut nous éprouver. Et Dieu a éprouvé Élisée, reste là. Et c'est vrai que c'est un dilemme ça, jusqu'où il faut se soumettre, ne pas se soumettre. Et Élisée, lui, il avait compris, il savait qu'il allait se passer quelque chose, et il a persévéré. Et toutes les fois où Élie lui a dit, mais reste ici, il a dit, non, je te suivrai. Et je crois, mes frères et sœurs, que quels que soient les combats, les circonstances, les désappointements, les épreuves, vous savez, on pourrait en citer des mots qui font allusion au combat que nous menons tous. En tous les cas, Élisée va suivre Élie, et au moment donné, ils arrivent à l'apothéose, et au verset 9, ils passent le Jourdain, et Dieu a vu la détermination. Vous savez qu'il est écrit, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Les violents, pas sur les autres. Hein. Les violents, par rapport à soi-même, sur eux-mêmes. Et là, il y a eu une persévérance. La persévérance, vous savez, ça paye. C'est écrit dans la Bible que ceux qui héritent par la foi et les persévérance. La persévérance, c'est quelque chose qui, on le voit, on a déjà entendu des sportifs de haut niveau. Moi, j'ai été scotché quand j'ai entendu la détermination de certains sportifs. C'est impressionnant. Comment ils sont déterminés pour gagner telle ou telle compétition. C'est impressionnant. Donc Élisée a persévéré. Et à des moments donnés, quand on persévère, eh bien, il y a des situations qui se présentent. Deux Rois chapitre 2 verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Il fallait déjà le demander parce que c'était déjà pas mal, avoir le double de ce qu'avait Élie. Vous ne trouvez pas que c'était quoi cette requête d'après vous? C'était bien. D'ailleurs, apparemment, ça a plu à Dieu. Regardez ce qu'a dit Dieu, ce qu'a dit Élie. Et je crois que ça fait quand même partie d'un dilemme qui se présente. Élie dit, tu demandes une chose difficile. Alors, c'est une question que l'on peut tous se poser. Qu'est-ce que c'est qui est difficile? De persévérer? Oui. De s'appliquer? Quand même, oui. Pour obtenir tout ce que Dieu veut nous donner. Car, on l'a lu dans ce verset d'introduction, si nous étions attentifs aux commandements, mais même aux promesses, à tout, ton bien-être serait comme un fleuve. Et ton bonheur comme le flot de la mer. Même si on est dans l'épreuve. Vous savez, Paul et Silas ont été jetés en prison, roués de coups, blessés, attachés, dans des situations difficiles, en pleine nuit, dans les ténèbres, dans une prison entièrement fermée, ils chantaient, ils louaient, et puis plus loin, on le voit, nous avons pris de l'assurance à Philippe. Et c'est écrit, on aurait pu ne pas le savoir, mais ce qui prouve une chose, c'est que la prospérité, la grâce, l'abondance, la double portion, quoique la Bible ne parle pas de double portion, la Bible parle de deux morceaux de gâteau, la Bible dans le Nouveau Testament parle de plénitude. C'est encore mieux. Le Seigneur ne veut pas vous donner deux morceaux de gâteau, il veut vous donner tout le gâteau. C'est mieux? Ben oui, c'est mieux. Mais enfin, qu'importe. Si déjà notre vie spirituelle doublait ce soir, ou dans les semaines à venir, ce serait déjà pas mal. Et c'est la volonté de Dieu. N'oublions pas des choses. C'est vrai qu'il y a plein de combats. Je sais qu'il y en a un qui se charge de nous décourager, de nous culpabiliser. Moi, j'ai vu des gens qui ont commis des erreurs graves, graves. Des trucs graves, des péchés graves, etc. Et qui ne se sont jamais pardonnés. Ça, c'est terrible, ça. À cause de la pression que l'ennemi met. Vous savez, la Bible dit que c'est l'accusateur des frères. Je ne sais pas quel est le péché que vous avez pu commettre, mais je peux vous dire une chose, Dieu pardonne. Tous les péchés, tous. Tout péché et tout blasphème sera pardonné, mis à part le blasphème contre le Saint-Esprit. Donc là, nous voyons un homme qui persévère, à qui va s'entendre dire « Tu demandes une chose difficile ?» Oui, c'est possible. L'ennemi, c'est l'accusateur. L'ennemi, c'est le voleur. Mais Jésus a dit qu'il était venu pour donner la vie, et la vie en abondance. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce que je vous avais demandé de faire, je ne sais pas si vous vous souvenez, de travailler certains aspects de la plénitude. C'est quoi la plénitude? Par exemple, on peut lire un autre verset dans Colossiens, au chapitre 2 et au verset 10. Voilà, là, ce n'est pas deux morceaux du gâteau, c'est tout. C'est tout le gâteau. Colossiens, chapitre 2, verset 9 et 10. Franchement, les versets que je vais vous citer ce soir, ou peut-être que vous allez me donner aussi, parce que je vous avais demandé de travailler, c'est important de travailler. Bien sûr que vous avez besoin des pasteurs pour vous exhorter. La Bible dit qu'il travaille à votre salut, mais est-ce qu'il est demandé aussi de travailler à son propre salut? Oui. Est-ce que je dois vous édifier? C'est mon ministère. Mais est-ce qu'il est dit, édifiez-vous vous-même? Est-ce que c'est écrit? Vous voyez? Dans Jude, oui, c'est écrit. Édifiez-vous vous-même. Colossiens chapitre 2, verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui. Donc, il faut que nous appliquions. Et je crois que ça vaut la peine, même si je ne sais pas le temps que ça va prendre, mais quand même, de noter, de dire, est-ce que j'ai tout pleinement? Oui, non, pas tout. Il me manque certaines vertus que Dieu veut donner. puisque Jésus a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie en abondance. Alors, s'il y a un problème, ne nous traumatisons pas, mais ce soir, disons, voilà, j'ai la paix. Oui, tiens, j'ai la paix. Est-ce qu'on peut la perdre, la paix? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de perdre la paix? Oui ou non? J'ai la paix. Est-ce que j'ai la... Comment j'ai la paix? Parce qu'en fin de compte, il faut que ça soit archi pratique. J'ai perdu la paix, je me suis loupé. Je me suis disputé avec un frère, je me suis discuté avec mon épouse, je me suis discuté avec le patron. Qu'est-ce qui se passe? Ça vous est déjà arrivé de vous attraper avec quelqu'un? Qu'est-ce qui se passe? On a beaucoup de paix quand on se dispute avec quelqu'un, en principe. Non, on perd la paix. Qu'est-ce qu'il faut faire? On demande pardon. Qu'on ait tort, qu'on ait raison, je te demande pardon. Seigneur, je te demande pardon. Parce que c'est quand même la volonté de Dieu. Et là, peut-être que vous pourriez le faire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir cette paix? La paix en abondance, c'est dans Daniel. Je l'ai marqué dans Daniel au chapitre 4. On va prendre... Moi, j'aimerais qu'on prenne le temps. Mais que vous puissiez, au fur et à mesure... Que nous puissions, au fur et à mesure que nous avancerons dans cette étude sur la vie de l'esprit, non pas faire un blocage sur le parler en langue, mais véritablement une intelligence, une démarche intelligence de dire, moi, Seigneur, dans Daniel, tu promets que je peux avoir la paix, et comment la paix au fait? Lisons-le, Daniel chapitre 4, verset 1er. C'est un principe. Dieu est un Dieu d'abondance, et ne nous contentons pas de miettes, beaucoup de chrétiens se contentent juste du salut. Est-ce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui se contentent juste du salut? Est-ce que vous le savez ça? Les chrétiens, ils se maintiennent juste dans le salut. Ils seront sauvés, mais ils se seront privés toute leur vie de la grâce de Dieu. C'est écrit, ne vous privez pas de la grâce de Dieu. Daniel 4, verset 1er, Nébuchadnezzar, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toutes langues qui habitent sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. C'est un principe. Un petit peu avant, dans Ésaïe, chapitre 26, alors là, on pourrait passer la soirée, c'est certain, à prendre des versets qui nous parlent sur la paix. On voit, lorsque c'est répété autant de fois, vous voyez, Ésaïe 26, verset 3, qu'est-ce qui est écrit? À celui, vous voyez, on en revient à cette détermination, à celui qui est ferme, alors les sentiments, ce n'est pas les sentiments émotionnels, à ce qui est ferme dans ses pensées spirituelles. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il prie. C'est pour ça que c'est ça qui est écrit? Est-ce que c'est ça qui est écrit? Vous ne m'aidez pas beaucoup. Est-ce que c'est ça que vous avez dans votre Bible? Tu assures la paix, parce qu'il prie une heure par jour. C'est ça que vous avez écrit, non? Ah non, pardon. Tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la paix, cette paix qui est quand même le résultat de la vie de l'esprit, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit et qui n'a pas la paix, je vous avoue qu'il y a quand même un gros, gros dilemme. La paix peut nous être donnée en abondance. Et à celui qui est ferme dans ses pensées, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la paix? Est-ce qu'il y a un verset qui vous vient à l'esprit? Je vous avais demandé de travailler cette prédication avec moi. Est-ce qu'il y a un verset qui vous vient à l'esprit? Allez, aidez-moi. Pouvoir. Comment? Exactement. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce. Il y a des moments où il faut prier simplement, à des moments où il faut supplier, à des moments où il faut faire des requêtes, et puis surtout faire des actions de grâce. Et qu'est-ce qu'il est dit? La conséquence? Et la paix de Dieu qui surpasse... Toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc, celui qui est attentif, vous voyez, il y a des chrétiens qui s'inquiètent tout le temps. Écoutez, ça fait 35 ans que je suis pasteur, à la fin du mois. 35 ans. Je connais des chrétiens qui aiment Jésus. Ils aiment Jésus certainement autant que moi, c'est sûr, et autant que vous. Mais ils n'arrivent pas à être attentifs à ses commandements. Si le Seigneur vous dit ne vous inquiétez de rien, vous pouvez le faire. N'était pas, ouais, mais si tu étais à ma place, tu sais. Non. C'est pas une question de commencer à jouer la comédie. Ne vous inquiétez de rien. Faites connaître à Dieu vos plus gros besoins. C'est écrit comment? C'est vos plus gros besoins? Tous vos besoins. Et la paix de Dieu gardera vos cœurs. Après, il ajoute au reste que tout ce qui est bon, tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées et le Dieu de paix sera avec vous. La paix, C'est un des premiers fruits. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix et la joie. Et la paix, bien sûr que l'ennemi fait tout pour qu'on la perde. Moi, je pense à ces hommes, moi, je pense à des hommes qui avaient reçu l'onction, comme Saül, vous voyez, qui, et parce qu'ils ont commencé à magouiller spirituellement avec la vérité, le mensonge et tout, ils ont terminé, ils avaient perdu la paix. Parce que pour consulter une sorcière et pour finir par se suicider, il faut vraiment s'être éloigné de Dieu profondément. Et on pourrait prendre plein de cas d'hommes qui auraient pu vivre dans la paix et qui n'ont pas la paix. Ce soir, vous devez dire, je serai attentif à tous les commandements où tu me parles de paix. Jésus, avant de partir au ciel, mais c'est vraiment hallucinant, je ne sais pas le mot qu'il faut utiliser, mais c'est merveilleux en tous les cas. Il leur dit, mais je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, tout le monde va le vendre, le trahir, l'abandonner. Et enfin, vous savez tout ce que Jésus a vécu, et lui dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Et qu'est-ce qui est ajouté à la fin de cette longue locution? Qu'est-ce que Jésus ajoute? Parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Tu te dis, non mais c'est pas possible. Mais combien de fois Dieu nous a parlé de paix et une heure après la prédication, la tristesse avait rempli notre cœur parce qu'on n'avait pas écouté, ou alors c'était rentré par l'oreille, c'était sorti par l'autre, ou ça avait juste touché un petit peu le cerveau, mais c'était pas descendu de 40 centimètres. Et que c'est dommage. Dieu est un Dieu de paix. L'ennemi fera tout pour vous la voler et Dieu vous la donnera et vous la redonnera. Vous la perdrez 50 fois, et bien Dieu vous la donnera 51 fois. Parce que Dieu donne. Que c'est dommage lorsqu'une église se prive de ces choses. Le baptême du Saint-Esprit, c'est ça. La plénitude, mais il faut dire non, parce que vous avez vu, les 50 là, qui étaient avec les collègues à Élysée, vous connaissez, vous lirez le chapitre qu'on n'a pas lu parce que le temps nous manque, mais il y avait 50 collègues là, à l'école biblique, et ils regardaient de loin, vous voyez, ils se demandaient, et même quand ils ont su que Élie avait été enlevé, ils le savaient. Vous savez ce qu'ils ont fait pendant 3 jours? Ils l'ont cherché. Pour vous dire combien ils étaient. D'ailleurs, c'est ce qui se passera à l'enlèvement. Je suis sûr qu'il y a des chrétiens qui sont très spirituels. Ils vont chercher les chrétiens qui sont enlevés. Vous le croyez, ça ou non? Mais bien sûr, ça se passera. Ils l'ont cherché parce qu'ils croyaient. Ils l'ont dit, tu sais que ton maître aujourd'hui est enlevé, etc. Oui, oui, on le sait. Et ils l'ont cherché. Ce qui prouve qu'ils croyaient sans croire. La paix. Mes frères et sœurs, je ne sais pas le temps qui va arriver, je ne parle pas du temps, comment dirais-je, temporel, je parle des temps difficiles qui viennent sur la terre. Il y a des temps difficiles, est-ce que la paix, vous pouvez la garder? Ben ouais, vous pouvez garder la paix. Vous devez garder la paix. Vous devez vous imposer, je resterai ferme. Alors, on a pris 3-4 versets, mais il faudrait peut-être plusieurs études et prendre tous les versets sur la paix. Comment on perd la paix? Tiens, comment on la perd? Vous vous rappelez les fois où on l'avait perdue? Qu'est-ce que c'est qui s'est passé? Soyez honnêtes. Quand est-ce que vous l'avez perdu la paix? Quand on ne fait pas confiance. Quand on ne fait pas confiance. On a perdu la paix quand il y a eu des conflits. On a perdu la paix, des conflits avec quelqu'un. Quand il y a eu des combats avec l'ennemi aussi. Enfin, il y a plein de... Et on devrait se dire, non, je l'ai perdu. La Bible dit, mais poursuivez la paix. Poursuivre la paix, ça veut dire qu'il faut la galoper, parce qu'il faut pas, elle peut vite s'échapper. C'est vrai ou c'est pas vrai? Eh bien, on se met à genoux, Seigneur, je me relèverai quand j'aurai la paix. Moi, ça m'est arrivé des fois de me mettre à genoux, je sais pas, moi, à peu près 3-4 secondes, ça m'est arrivé de me mettre à genoux une heure. Pas parce qu'on m'avait dit qu'il te faut te mettre à genoux 3 secondes ou une heure, parce qu'il y a des combats, des fois, c'est pas facile. C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a des fois, la prière, c'est un grand, grand, grand rafraîchissement. Et des fois, la prière, c'est un vrai, vrai, vrai combat. Eh bien, merci Seigneur. Mais moi, je retrouverai la paix. Rechercher la paix. Je l'ai perdue. Il est hors de question que je fasse le malin avec le baptême du Saint-Esprit, avec les dons spirituels et tout le reste. Je veux la paix. Parce que Dieu est un Dieu de paix. Je l'ai perdue. Eh bien, je la retrouve. Et je sais que c'est une chose difficile. Parce que quand on vit sous la culpabilité, moi j'ai connu une dame, vous voyez, qui est venue ici. Elle est venue, elle était en conflit à 40 ans. Elle a fait une tentative de suicide. Elle s'est jetée du 5e étage. Elle est tombée sur une voiture. Elle s'est extrêmement abîmée, mutilée, etc. Elle n'est pas morte. Elle a mis des années à se relever. Mais son mari a été tellement, tellement traumatisé. Ses enfants ont été tellement traumatisés. Ils avaient 10 ans, les enfants. Et son mari a demandé le divorce. Enfin, il y a eu un divorce. Et elle prenait compte, en plus de ça, ses enfants étaient complètement perdus. Son mari était complètement affolé. Sur ses entrefaites, elle est venue à l'église. Et ça faisait 10 ans que c'était arrivé. Elle ne s'est jamais pardonnée. Il a fallu, ça, elle a traîné des années pour comprendre qu'il fallait qu'elle se pardonne. Vous vous rendez compte? Des années. C'est dommage, hein? J'ai dit, mais vous avez demandé pardon à Dieu? Elle m'a dit, oui, j'ai demandé pardon à Dieu. Elle était désemparée. Vous avez demandé pardon à votre mari? Oui, je l'ai fait depuis que j'ai... Vous avez demandé pardon à vos enfants? Oui. Et oui, et j'ai dit, et vous, vous êtes pardonné? Et elle ne pouvait pas. Elle n'arrivait pas. Elle ne se pardonnait pas d'avoir fait ça, d'avoir détruit son foyer, d'avoir détruit ses enfants. Elle était malheureuse. Mes frères et sœurs, il y en a un qui fera tout pour que nous n'ayons pas la paix. Et il faut s'approcher du Seigneur. Vous savez, quand Pierre a renié Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a touché quand vous avez lu le reniement de Jésus? Et ce n'est pas quelque chose qui vous a touché. Le regard du Seigneur. Jésus s'est retourné et il a regardé Pierre. Et vous savez, je suis sûr que ce regard-là a été une grande bénédiction. Et c'est pour cela que nous, on regarde, nous, on a nos yeux à nous. Mais on devrait quand même capter un peu plus que les regards du Seigneur sont sur nous pour nous aider. Et Jésus qui allait être crucifié, il a pris le temps de le regarder, non pas pour lui dire « t'as vu, je te l'avais bien dit ». Il l'a regardé avec un regard plein de compassion, c'est sûr et certain. Le regard du Seigneur, nous devrions dire « Seigneur, tes regards sont sur moi, j'ai perdu la paix, j'en ai honte. J'ai honte d'être mauvais chrétien dans l'église, j'ai honte de rendre mauvais témoignage. Mais moi, je sais qu'il y a une plénitude. Tu ne me donneras pas deux parts de gâteau, je prendrai tout le gâteau. » Qu'est-ce que vous préférez? Deux morceaux ou tout le gâteau? Tout le gâteau? C'est bien, mais vous avez raison. Mais c'est ça, c'est vraiment ça. L'Ancien Testament, il y a une certaine quantité. Le Nouveau Testament, c'est la plénitude. Moi, je vous encourage à prendre une concordance, à le faire vous-même, à dire, mais c'est vrai quand même, je perds trop souvent la paix, c'est un problème, il faut le régler. Oui ou non? Parce que vous, ce sera peut-être cette vertu, quelqu'un d'autre, ça sera un autre domaine, ça va être le zèle, l'autre, ça va être peut-être le courage, etc. On devrait discerner ce qui est le plus difficile, ce que l'on perd le plus facilement. Vous ne croyez pas qu'on pourrait le discerner? On devrait le discerner. Mais c'est pas normal que cette vertu-là m'échappe et me pénalise autant. Donc, faites-le. Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'églises où on fait des recherches du baptême du Saint-Esprit. Je pense qu'on a raison, mais je crois que c'est maladroit et c'est incomplet si on ne veille pas sur la grâce de recevoir toutes les bénédictions que Dieu a à nous donner continuellement. Donc, on a parlé de la paix. Maintenant, on va parler de la confiance, tiens, une pleine confiance, alléluia, une pleine confiance. Je serai, Ésaïe 12, on est dans Ésaïe, c'est pour ça que je l'ai pris, regardez cette parole quand même. Ésaïe, bon, il a eu son parcours, regardez ce verset, on devrait prendre ce verset, et là, pour votre culte personnel, pendant une semaine, prendre des versets sur la confiance. Ésaïe exprime sa foi. Pourtant, il y a eu des combats. On va prendre le verset 1, parce que des fois, on prend que le verset qui nous intéresse, mais regardez le verset premier. Pour vous dire qu'il y a des contextes compliqués parfois. Regardez. Tu diras, en ce jour-là, je te loue, Éternel. Car, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Ésaïe, attention, hein, c'est Ésaïe. Tu as été irrité contre moi. Hein? Ta colère s'est détournée et tu m'as consolé. Vous voyez, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a eu un combat. Oui ou non? Comment vous le voyez? Comment vous l'expliquez-vous? Il y a eu un combat. Il y a des combats. Ne vous traumatisez pas pour les combats, les craintes, les douleurs. Ne vous traumatisez pas pour vos moments difficiles. Non, c'est normal. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai, qu'est-ce qu'il dit? Plein de confiance. Et bien sûr, la conséquence, elle est là. Je ne craindrai rien. Autre conséquence, car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Et bien sûr, l'autre conséquence qui est d'un grand bénéfice, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Verset premier, de l'irritation, de la colère, un règlement. S'il y a la consolation, c'est qu'il a demandé pardon. Vous voyez, il faut le déduire intelligemment. Il y a eu de l'irritation et de la colère. Pourquoi la colère s'est détournée? Eh bien, parce que Esaïe a demandé pardon. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne le sait pas, on n'a pas besoin de le savoir. Je serai plein de confiance. Comme pour les Silas, en prison. Ils n'ont pas commencé à se rejeter la faute. Ouais, je te l'avais dit, t'as trop parlé. Tu vois, c'est ta faute, c'était toujours en train de parler. Moi, j'en ai marre de travailler avec toi. Est-ce qu'ils auraient pu se... Sincèrement, est-ce qu'ils auraient pu se prendre un peu le bec? Dites-moi franchement. Mais oui, il faut un responsable. Il y a une épreuve, il faut un responsable. Non, c'était comme ça. Et ça donnait à Dieu l'occasion qu'il fasse une expérience. Vous n'avez pas envie de donner à Dieu des occasions de faire des expériences? Plutôt que de râler, ouais, j'en ai marre, si c'est ça, je ne prie plus. Non, Seigneur, moi je me mets à genoux et je te loue pour ce que tu... Moi, si vous saviez le nombre de fois où je l'ai fait. La première fois, j'ai dit, t'es fou. Et puis, comme j'ai vu quand même que Dieu bénissait, ça m'a quand même encouragé à le faire. Un gros, 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 gros problème. Vraiment un gros problème. Je me rappelle, après le culte, je suis parti à la maison, je me suis mis à genoux et j'ai dit, Seigneur, merci. Et ce problème ne coûtera pas un franc de téléphone à l'église. Parce que vous savez, des fois, quand on a... Ma femme, elle est entrée dans mon bureau, elle me dit, genre, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, ça y est, c'est fait. Je ne ferai rien. Mais comment ça, t'es le pasteur de l'église? J'ai dit, ben oui, mais je ferai rien. Je ferai une pleine confiance à Dieu. Et au bout de 6 mois, le problème, il s'est réglé. Tout seul. Ça aurait pu mettre 6 minutes. 6 heures. Ça a pris 6 mois. Pourquoi? Parce que Dieu dit que si c'est lui qui combat pour nous. Alléluia. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Je serai plein de confiance. Et ça vaudrait la peine de voir ces hommes ou ces femmes qui étaient pleins de confiance. Pleins de confiance. Cette pleine confiance a des répercussions, on vient de le lire. En vérité, la pleine confiance amène une pleine conviction. Ça, vous voyez, ça, c'est en crescendo ou l'inverse. Regardez dans Romains au chapitre 4, quand vous voyez comme le brave Abraham, vous voyez, il nous est parlé de lui, Romains chapitre 4. Regardez ce témoignage extraordinaire. Je ne sais pas si vous réalisez. Il est dans l'incapacité d'avoir un enfant. Sa femme, qui a été ménopausée, est dans l'incapacité d'avoir un enfant. Il faut un miracle. Romains 4, verset 19. Et sans faiblir dans la foi. Vous voyez, quand vous lisez quelque chose comme ça, sans faiblir dans la foi, vous pouvez dire, tiens. Mais ça m'intéresse, ça. Un homme qui n'a pas faibli dans la foi, mais qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il ne considéra pas que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta pas, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en vérité? Ayant la... pleine conviction, c'est pas une conviction, peut-être bien oui, peut-être bien non, ayant la pleine conviction. Si on parle du baptême du Saint-Esprit, on peut s'arrêter sur toutes les fois où il y a ce mot qui est utilisé. Une pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Aujourd'hui, j'ai eu un responsable d'une église que j'avais rencontré il y a 2 ans et qui était extrêmement malheureux parce qu'il avait 50 ans, il était toujours célibataire. Toujours célibataire. Et il m'avait invité, on avait mangé au restaurant, et il m'avait invité, c'est loin d'ici. Et moi, je lui avais dit, mais qu'est-ce que vous vous cassez la tête? Bon, 50 ans, c'est vrai que j'avoue que ça commence à... J'ai dit, mais vous ne croyez pas que Dieu, il sait où elle est, votre femme? Ah, oh, monsieur Gaud. Mais j'ai dit, mais vous n'avez pas compris. Mettez Dieu en premier. Et aujourd'hui, j'ai appris qu'il s'était marié. Oui. C'est pas une bénédiction? Et il me disait, mais vous avez raison. Une pleine conviction. Mais est-ce que vous croyez que toute grâce, parce que, attention, toute grâce dépend de vos progrès, je suppose. C'est pas écrit comme ça, que toutes les grâces dépendent de nos progrès et de l'argent qu'on donne au pasteur ou à l'église. Au pasteur, non, comment ça marche? Qu'est-ce qui est écrit? Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Tout est grâce. Vous le croyez que tout est grâce? Alors, tant mieux si je fais des progrès. Mais le problème, c'est pas tellement de faire ou pas faire des progrès. Le problème, c'est d'avoir cette pleine conviction que ce que Dieu promet, s'il l'a promis. Pourquoi Dieu a fait des promesses? Pour lui, pour montrer qu'il est costaud? Pour montrer qu'il est grand? Pour montrer qu'il est puissant? Ou est-ce qu'il a fait des promesses pour vous? Pour nous. Il les a faites. Et Abraham, il a compris. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait pour que cette pleine confiance, bien sûr, se métamorphose en pleine conviction? Il a pas fait grand-chose, il n'a pas considéré son corps. Je ne me considère pas moi, je ne considère pas l'Église. Vous croyez que les bénédictions pour votre vie dépendent de l'Église? Les bénédictions pour votre vie dépendent de votre foi. Il vous sera fait selon votre foi. Et on l'a vu dimanche, quand ce brave Yahébetz, qui a grandi dans un contexte archi-difficile, qui n'avait pas de père, quand il est né, sa mère l'a appelé douleur, pour vous dire jusqu'où ça va, jusqu'où ça peut aller, la souffrance. Et d'ailleurs, ça veut dire souffrance, il cause de la souffrance. Et bien, c'est à un moment donné, il a dit stop. C'est terminé, j'ai grandi dans la souffrance, toute ma vie on m'a appelé souffrance. À un moment donné, il a fait un acte de foi. Comme Élisée qui a dit, non, je suis vrai. C'est difficile, oui, c'est difficile, c'est pas grave. Je sais ce que je veux. À tes résolutions répondra le succès. Et Yahébet, c'est écrit comme ça, paf, comme une pépite qui ressort de ces millions d'hommes qui sont dans ce contexte. Il ne fut plus considéré que ses frères. Et il a fait une prière. Si tu me bénis, vous connaissez les quatre versants de sa prière, hein? Si tu me, allez, aidez-moi, parce que je suis fatigué. Si tu me bénis, si tu étends mes limites, si ta main est sur moi, si tu me gardes de la souffrance. Il avait suffisamment souffert, il a dit Seigneur, je ne veux plus souffrir. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Pourquoi? Parce qu'il était meilleur que les autres? Non, parce qu'il a compris qui était Dieu. Dieu avait le pouvoir de mettre un frein, un stop à cette souffrance. Nous sommes dans des temps qui sont des temps difficiles de souffrance. Et bien on peut dire stop, moi, je m'appliquerai. Je crois que Dieu est tout puissant. Oui, je suis stérile. Oui, ma femme ne peut plus enfanter. Enfin, tous les cas de figure que vous voulez. C'est-à-dire qu'il y a la mort autour. Mais moi, je crois que Dieu, il peut tout faire. Et bien sûr, vous avez tous dit, parce que j'ai des problèmes de surdité, vous avez tous dit, mais amen. Mais vous le croyez? Seigneur, moi je veux avoir une pleine paix. Parce que moi je ne veux pas me laisser balloter. Il y a des gens, ils sont tout le temps découragés à cause du découragement des autres. À moins que vous ne rencontriez jamais des gens découragés. Franchement, aujourd'hui, vous avez rencontré combien de personnes? Allez, on va faire un petit test. Avec combien de personnes vous avez discuté aujourd'hui? 2, 10, à peu près. À peu près, mais pas 3000. Bon, combien? Est-ce que toutes ces personnes, la trentaine, est-ce qu'ils étaient courageux? Vous voyez? Qu'on le veuille ou non, si vous discutez avec 30 personnes qui sont négatives, ça peut extrêmement rejaillir sur... C'est quand même écrit. Donc je crois que ça vaut la peine de dire, moi, je m'appliquerai. Je ne sortirai pas de ma maison. Moi, ça, je me l'impose, je peux vous le dire. Ça me mettre sous le sang précieux du Seigneur et ça me prendre ce que Dieu veut que je prenne par un acte de foi. Prenez courage. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage. C'est un acte de foi. Yahébet, il a fait un acte de foi. Ça a tellement plu à Dieu que Dieu a voulu que ce soit dans le canon des Écritures pour que tous les chrétiens du monde sachent que l'on peut faire la même expérience, faire un acte de foi et dire Seigneur, tu me béniras. Tout ça dans un contexte d'obéissance. Hein. Parce que ça, c'est. J'ai lu un bouquin sur la prière de Yahébet. Le pasteur, il dit que pendant 20 ans ou 30 ans, il a tous les matins répété cette prière et ça a fini par marcher. Vous voyez, non, mais là, on est dans la. Là, on est vraiment dans la superstition totale. Il n'est pas question de réciter des prières comme ça. Il est question de dire, Seigneur, donne-moi la même détermination, la même obéissance, parce que la bénédiction, la grâce, etc., c'est pour glorifier le nom du Seigneur. Ce n'est pas pour sa propre satisfaction, quoique, elle y est. Mais une chose est sûre, c'est pour glorifier le nom du Seigneur. Et Dieu a voulu que cette petite expérience, enfin, cette grande expérience soit résumée par une prière très courte. Mes frères et sœurs, une pleine paix, une pleine confiance et une pleine conviction. On va s'arrêter ce soir. Est-ce que vous croyez que nous pouvons tous développer ces vertus? Est-ce que franchement vous le croyez? Est-ce que vous voulez vous identifier à Aya et Beth et dire non, moi on m'a donné tel prénom, mais moi je veux m'appeler Bénédiction. Est-ce que ça vous irait, Bénédiction? Quel est le nom que vous aurez dans le ciel? Vous savez que dans le ciel, vous aurez un nom nouveau. Vous le savez? Pas un nom comme Nicolas ou comme Jonathan. Mais un nom, vous voyez, comme Gérard. Un joli nom, quoi. D'accord? Franchement, frères et sœurs, est-ce que vous croyez... Il faut que vous répondiez au Seigneur, pas à moi. Est-ce que vous croyez que vous pouvez avoir tout pleinement en Christ? Eh bien, ça dépend de qui? De nous. Alors, on lui demande de l'aide. Vous êtes d'accord? Et appliquez-vous à prendre une concordance. Il y a des chrétiens qui n'ont pas leur Bible, alors ne parlons même pas de concordance dans leur langue. Mais vous rendez compte, nous, on peut avoir gratuitement une concordance avec Internet. Je vais prendre tous les textes sur la paix et je vais les méditer. Je veux une pleine paix. Alléluia. Vous êtes d'accord? C'est ce que Dieu veut. Si on a parlé de ça, moi j'en déduis, à moins que je ne me sois trompé, mais si je ne me suis pas trompé, j'en déduis que c'est ce que Dieu veut pour vous. Une pleine paix, une pleine confiance, une pleine conviction. Si le programme vous va, eh bien vous pouvez le recevoir et le prendre et Dieu vous l'accordera. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te bénissons parce que nous croyons tout ce que nous avons lu. Et nous voudrions nous identifier à cet homme Yahébet. Nous voulons nous identifier à Élisée, ces hommes qui n'ont rien lâché, qui ont compris que tu étais tout puissant. Seigneur, si nous pouvons avoir cette pleine paix, cette pleine conviction, cette pleine confiance, c'est bien parce que tu donnes ces choses. Seigneur, nous voulons, comme Abraham, glorifier ton nom. Nous voulons te glorifier, pas le temps de cette prière, pas le temps de cette réunion. Nous voulons te glorifier du lever au coucher. Nous voulons te glorifier lorsque nous nous réveillons la nuit. Nous voulons vraiment faire ce qu'Abraham a fait. Le temps qu'il le faudra, mais nous croyons que tu es digne, Seigneur Jésus, de recevoir de tous ceux qui t'appartiennent la gloire. Vraiment, apprends-nous à te glorifier parce que tu es digne de confiance. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.